All right, ready, we need nothing.
Et c'est parti.
Eh ben, dans 5, 4, 3, 2, 1.
Qu'est-ce que c'est ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Le jeu dit d'aller se faire enculer.
Vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, ça y est, enfin ils sont là.
On n'est pas mort.
Je suis mort qu'ils disent rien.
Non, on est là.
Et vous aurez reconnu Camille.
Tout à fait.
Et Hicham.
Bonjour.
Ah, comment allez-vous?
Très bien.
On pète le feu. Ça fait plaisir de se revoir.
Mais gars, ça fait quasiment 6 mois qu'on n'a pas enregistré.
Non.
Bah si, pas loin.
Ah bon?
Bah on est en septembre déjà.
Bah oui.
Bah oui, donc ça fait 6 mois.
Mais non, mais on a enregistré.
Bah oui.
Bah quand?
Bah avec,
après le confinement, c'est sûr, oui. On a enregistré.
Oui, bah c'est bien ce que je dis. Bon, ok, ça fait pas 6 mois, bon.
Bah non.
Oui, bon, c'est vrai. Bon, ça fait longtemps quand même.
Mais ouais,
oui,
bah,
ça fait, oui,
dans
oui,
ma
ça
tête,
fait longtemps.
Ça fait 4 ans. Donc,
et puis, ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait des choses de façon régulière. Et,
Donc, quand j'envoyais des tweets disant que ça faisait 6 mois, personne n'a pensé à me dire que ça faisait 6 mois.
On s'est dit, c'est le patron.
On ne te contredit pas.
Moi, je vais le faire pendant l'épisode.
C'est ça.
On sait comment tu es, t'es très colérique, t'es très autoritaire avec nous.
Ça fait 3 mois qu'on attend ça.
Donc, il vous a préparé un petit apéro avec des acras frais et tout.
Oui, de morue.
Vous êtes des monstres.
On sent bien bon de la bouche.
Bon, en tout cas, ça fait. Puisqu'on a quand même des minimums de gestes barrières, enfin de gestes non approchants, on va dire.
Oui, c'est vrai.
Ce qui fait, on va simplement pas se respirer à l'intérieur de la bouche. C'est un peu la base. Mais du coup, ça va plutôt pas mal. Oui, non, mais même si vous vous moquez de moi, je suis quand même très heureux de vous retrouver.
Mais nous aussi, on est heureux de nous retrouver.
Oui.
C'est vrai qu'on s'était manqué.
Eh bien, on a une bonne dynamique là pour la reprise, hein, ça fait plaisir. Oui, et puis voilà, j'espère que vous, auditeurs, auditrices, vous avez écouté les précédents épisodes, parce que voilà, Camille ne l'a pas fait de son aveu. Bon,
non, mais alors
ce matin,
voilà, calmons-nous notre race cordialement, il est sorti ce matin.
Mais c'est ça le soutien.
Et,
voilà.
Et
il est
voilà.
Excellent, non j'en sais rien.
Mais bon. J'écouterai et je te dirai. S'il est excellent ou pas, mais je ne doute pas, patron, que tu aies fait quelque chose d'absolument incroyable.
Allez, c'est
parce
reparti.
Que tout ce que tu fais est vraiment.
Mais continue, j'aime.
Wow.
Bon, du coup, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, déjà, oui, petite annonce, oui. On va essayer un rythme un peu différent, pardon. Parce qu'effectivement, avec toutes ces histoires de pandémie, de télétravail, etc., de la vie, de beaucoup de travail, c'est pas forcément facile de garder le même rythme.
C'est pourquoi on a pris la décision qu'on allait sortir un épisode tous les 7 ans.
Exactement. Et par contre,
l'épisode durera 19h.
Et le prochain sera en 3D d'ailleurs.
C'est vrai.
Et cet épisode sort d'ailleurs en 2042.
Ouais, donc j'espère que vous allez bien. Et du coup, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte un autre épisode qui sortira le matin. Non, en fait, on va toujours sortir un épisode toutes les 2 semaines. Par contre, on fera moins de sujets par épisode, tout simplement.
Tout simplement.
Parce que ça demande énormément de boulot de préparer
les épisodes. Parce que vous nous fatiguez.
Voilà. Non, on vous aime beaucoup.
Oui. Non, et on a surtout envie de pouvoir consacrer autant de temps à faire des choses quali. Et on a réalisé qu'on avait moins de temps.
Oui, bah
parce
voilà.
Parce que la vie fait que.
Parce qu'il faut bien se nourrir avec du travail et que le travail prend du temps.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Malheureusement.
Donc, on va tester ça sur, au moins sur quelques épisodes et puis vous me direz ce que vous en pensez. Idéalement, si vous pouvez nous dire des choses positives, on est content. Mais à défaut, dites des choses vraies, on prendra aussi.
Absolument.
Ceci étant dit, je vous propose de. Oh, mais de quoi on va parler?
Ben oui.
Oui, c'est vrai. Mais
on va commencer avec Camille.
Mais tout à fait, tout à fait.
Oh là là, quelle surprise!
Et moi, j'avais envie de parler d'un sujet historique.
L'histoire.
Oh, dis donc,
c'est fou, ça faisait
quelle surprise!
Ça existe encore, ça? L'histoire?
Oui.
Non, parce que vu qu'on se voit moins, ça faisait longtemps que j'en ai pas entendu parler.
Ça existe encore.
Parce que je pensais que l'histoire, c'était du passé.
Oh putain, c'est horrible. J'en ai déjà marre. j'avais envie de vous parler de filouterie et d'escroquerie. Et je vais vous parler de l'affaire du collier de la reine. Voilà, qui est une affaire qui, souvent, pas tout le temps, est connue de nom. Mais les gens connaissent pas trop les tenants et les aboutissants de cette petite histoire de bijoux.
Et bah, pareil, le nom me dit quelque chose, mais alors je pourrais te dire.
En gros, il y a un collier, il y a une reine.
Voilà, c'est ce que Juan
m'avait
dit.
Et il y a une affaire.
Ok. Ok, ça Juan n'avait pas dit.
Il a du flair. Hein.
Ouais,
c'est pas un reporter pour rien.
Et ouais, d'ailleurs, nous le retrouverons dans le prochain épisode. Nous ne l'oublions pas. Et alors, après Camille, mais qu'est-ce qui va se passer, mon dieu?
Eh ben, c'est Ichouchou
après,
qui
elle,
attaque.
Après elle, le déluge. Eh ben non, après elle, Ichouchou.
C'est Ichouchou qui attaque et je vais commencer une petite période musicale pour moi. Mes trois prochains sujets seront en rapport avec la musique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Camille Saint-Saëns.
Très bien.
Voilà.
J'ai une petite pensée émue pour tes colocs qui doivent en avoir archi marre de Camille Saint-Saëns.
Non, parce que comme je t'ai dit, j'utilise un casque audio maintenant.
Ah, c'est formidable.
Le présent. très bien. Eh bien, c'est un très joli prénom. C'est un très joli nom. Oui. J'ai hâte. Mais le nom me dit quelque chose encore. Mais je vais faire preuve.
Mais je suis sûr que vous connaissez tous.
Yes. La sonnerie de SFR, ça me dit quelque chose. Ouais. J'en sais rien. Bon, bah, il me semble qu'on va pouvoir partir avec ce cher programme.
En avant Guingamp.
Prends moi mes bijoux et je te rendrai grâce alors en te baisant un bout.
Je toucherai ma bijouterie.
Alors désolé, on peut pas payer.
Moi je ne paierai pas.
Oh, putain, oh là là, cette violence.
Oh, c'était fort.
Oui.
Après avoir perdu 3 dixièmes à chaque oreille.
Ah, tout à fait. Donc pour ceux qui se disaient, là, mais il y avait une voix au fond et tout. Et oui, tout à fait, il y avait un petit mot précieux.
Ah, c'est ça.
Ouais, tout à fait, mais il faut l'écouter plusieurs fois pour entendre toutes les subtilités. Voilà.
Très bien.
Oui, c'est bah oui, c'était c'est subtil.
C'est souvent le cas avec le passé, c'est très subtil.
C'est voilà, tout à fait.
Allez, bon, on a laissé notre répartie en bas, donc on va continuer comme ça.
On va essayer d'y aller, hein, malgré tout, on va aller jusqu'au bout, faut bien qu'on le boucle, hein, cet épisode.
On va déjà le commencer.
On va déjà le commencer, exactement. Alors, c'est parti, on va parler Thunas, on va parler monarchie, on va parler filouterie, on va parler affaire du
Macron,
collier de la reine. Bah, comment tu sais? On va parler de l'affaire du collier de la reine. Donc, c'est une affaire qui débute... Alors, ça ne nous rajeunit pas, hein. En 1772, attention, qui est le roi de France en 1772
Louis XVI.
Et non.
14.
Et non.
Louis XV.
Non, oui.
Boum,
c'est
allez,
le 15.
Du premier coup, tu vas faire quoi?
Oui. T'as bien attendu qu'il chame cette plante.
Un petit peu, ouais.
Donc c'est Louis XV. Donc Louis XV, en 1772, il veut faire plaisir à Madame du Barry, qui est sa maîtresse en titre, et sa zouze, quoi. Mmh. Et donc, il décide de lui commander un collier incroyable, à nul autre pareil, mm-hmm, auprès de deux geôliers, enfin de deux joailliers associés qui sont les joailliers parisiens Baumeur et Bassange, et donc il veut un collier de diamants incroyable. Il leur dit, les gars, vous mettez le paquet, vous me faites un truc de folie. Okay. Donc faire un collier de diamants au XVIIIe siècle, ça prend du temps.
Bah oui.
Et Louis XV a le mauvais goût de mourir avant que le collier ne soit totalement achevé, donc avant de payer le collier. Flûte.
Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces diamants ?
Eh bien, exactement. Donc là, les deux mecs, ils se retrouvent avec un collier incroyable, mais du coup, infourgable, quoi, parce que ça a été commandé par un roi de France.
De la terre.
Donc dites-vous bien qu'en fait, il comporte 650 diamants, il pèse 2800 carats.
Ouais, okay, ouais, c'est pas dégueu. Pas mal, hein.
Et donc, il vaut 1,6 million de livres. Donc, qu'est-ce que c'est 1,6 million de livres Alors, il y a des sites qui permettent de convertir en euros, etc. Mais la fiabilité, c'est assez compliqué.
Une fortune de l'espace. Hein,
alors, pour vous faire une idée, 1,6 million de livres. J'ai fait le calcul, sachant qu'un cheval, ça coûte à l'époque 40 livres. Ça permet de s'acheter 4000 chevaux.
Ok.
Tu
oui.
vois
Oui, okay. C'est pas mal.
Voilà,
ça,
c'est pas mal.
Une belle écurie.
Attends, combien ça faisait un cheval?
40 livres. Donc ça fait 4000 chevaux.
Ok. Ok, non, je voyais ça un peu plus, mais...
Eh ben non, 1,6, enfin...
Ok, non, mais très bien,
planter,
très bien.
J'ai pu me planter.
Non, mais on va dire que ça fait beaucoup de chevaux.
J'ai pu me planter.
Ça fait un gros haras.
Oui, en tout cas, ça fait beaucoup, beaucoup de chevaux. Il faut savoir également, donc je rappelle, hein, toujours 1,6 million de livres, que le salaire annuel d'un cordonnier, c'est 100 livres à cette époque-là. Le salaire annuel... Donc là, on parle d'un collier de 1,6 million de livres et un cordonnier, ça gagne 100 livres par an. Ça fait pas du tout 40 chevaux,
ouais,
4000
si
chevaux.
Ouais, si je peux me parler, ça fait 40 000 chevaux.
Ah, pardon, j'ai oublié un zéro.
Ce qui fait déjà, faut une étable un peu plus grande, quoi. C'est une écurie un peu plus grande.
Oui, puis il faut des stocks de foin, quoi.
Ouais. Puis ouais, bah, pareil, comme tu dis, le cordonnier, il va falloir qu'il cravache un petit peu. Cravache, je
vais le dire.
Oh là là.
Et surtout, 1,6 million de livres, c'est le prix d'un gros navire de guerre tout équipé.
Ah, ça, c'est déjà plus facile à trouver.
Voilà. Donc, bref, c'est un collier qui coûte cher. Alors, nos deux bonhommes, ils vont essayer d'aller le revendre à droite, à gauche, mais vous vous en doutez, il y a peu de clients, et ils se disent, bon...
On va le couper.
Le plus simple... Non, du tout. Surtout pas, ils viennent de faire un collier incroyable.
On fait jouer l'assurance.
Le plus simple, c'est d'aller voir le nouveau roi.
Ah bah oui.
Bah hein, puis on va lui demander quoi. Hein, si Pépé avait des sous, Louis XVI. Après Louis XV, c'est Louis XVI. C'est vraiment.
Ah mais ils ont pas dit genre Louis XVI, c'est l'arrière petit-fils de Louis XV.
C'est son petit-fils, mais le papa de Louis XVI est mort sous le règne de Louis XV.
Ah.
Donc c'est son petit-fils qui a pris le pouvoir.
D'accord, ok. Mais
voilà.
Donc, on apprend tous les jours.
Et Louis XVI devait même pas être roi. Il avait un grand frère aussi avant lui qui est mort. Voilà, lui, il est vraiment arrivé bon dernier, mais il a eu la couronne et la guillotine. Ta-da et,
du coup, est-ce qu'il a gagné un collier ?
Bah, du coup, Louis XVI, on lui propose. Alors lui, il est tout jeune, donc on va lui proposer en 1778. Il se dit, bah oui, peut-être que je vais l'offrir à Marie-Antoinette, et Marie-Antoinette refuse
le collier.
C'est pas assez cher.
Oui. Non, pas du tout, c'est juste qu'elle le... Alors déjà, elle le trouve totalement ostentatoire. Alors vous avez des reconstitutions sur Internet du collier, parce qu'on a tous les dessins du collier, donc on sait bien à quoi il ressemble. Mais en fait, il y a plusieurs... il est vraiment en plein de parties, et il y a des gros rubans. Enfin, c'est vraiment... Il est importable, le truc. Mais même pour l'époque, on est à une époque où la mode féminine a tendance à parfois essayer de se simplifier un peu. Enfin, c'est vraiment par vagues. Et donc là, ça collait pas, quoi.
Tu dis, il y a plus de 2000 carats de diamants, mais en fait, si tu rajoutes l'or et le reste, il doit peser 4 tonnes, en fait.
Il y a pas d'or. C'est quand tu le regardes, vraiment, t'es sur un bail de rivière de diamants.
Mais il y a quoi pour les attacher entre eux ? Il n'y a pas des petites chaînettes ?
Si, c'est en argent.
Okay.
Enfin, ça a l'air, en tout cas, c'est argenté.
Okay.
Voilà. Et donc, Marie-Antoinette va refuser une première fois en 1778. Alors aussi, ça vient aussi peut-être du fait qu'elle ne pouvait pas blairer la Du Barry. Et elle sait que c'est un collier qui a été fait pour Madame Du Barry.
Ouais,
donc, elle s'est dit, super. Donc, en 1781, nos deux bijoutiers, ils n'ont toujours pas réussi à vendre leur truc. Donc, ils vont retenter auprès du roi. Et à nouveau, Marie-Antoinette refuse. Alors que Louis XVI lui dit, ouais, mais tu viens de me faire un fils quand même pour fêter ça. J'ai envie de te faire un petit cadeau.
Allez.
Donc, elle refuse. Donc, d'ailleurs... Petite anecdote fait qu'il va au final lui faire une nouvelle salle de bain pour la féliciter d'avoir eu un fils.
Et comme à l'époque le sexisme n'existait pas encore, bon bah on se dit ça passe.
Oui, exactement.
Il a fait vraiment une nouvelle salle de bain ?
Oui, genre de petite salle de bain tout intime, un petit cabinet de repos et ça se visite très rarement à Versailles parce que c'est vraiment des toutes petites pièces, mais ça fait, je sais pas, 9 mètres carrés.
Ah oui,
c'est vraiment des pièces toutes mignonnes et toutes intimes.
C'est un petit cadeau, quoi.
Et c'est des endroits où elle pouvait, elle aimait bien ça, Marie-Antoinette, les endroits où vraiment elle pouvait s'enfermer un peu, on lui foutait la paix et tout. Et donc, c'est un genre de mini boudoir. Et c'est juste là, pour ceux qui visitent Versailles de temps en temps, c'est vraiment quand vous êtes dans la chambre de Marie-Antoinette, vous avez son lit face à vous. Et c'est à gauche de son lit, vous avez une porte qui est planquée dans la tapisserie, vous savez, les petites portes dérobées. Bah, cette porte-là mène à cette petite salle de bain.
Okay.
Voilà, pour info. Enfin, c'est une enfilade de mini-pièces. Exactement. Nous allons continuer. et donc, bref. Donc, il y a un deuxième refus. Et c'est là que se met en place l'escroquerie de l'affaire du collier de la reine. Il nous faut deux protagonistes pour ça. Un pigeon.
Ouais.
D'accord. Mmh. Et un cerveau.
Ok.
Ok. Le pigeon qui est, c'est le cardinal de Rohan. Donc le cardinal de Rohan, c'est un homme, c'est un cardinal, donc c'est un mec qui pourrait peser dans le game. Mmh. Mais non, en fait, pas du tout, parce que le cardinal de Rohan, il faut savoir, il y a quelques années auparavant, il était ambassadeur de France à la cour d'Autriche, donc à la cour de la mère de Marie-Antoinette, l'impératrice Marie-Thérèse, et il a commis plusieurs impairs là-bas, à savoir, il a envoyé une lettre à Louis XV pour lui décrire un peu la cour d'Autriche, et il a dit, il a critiqué la mère de Marie-Antoinette et tout, enfin, puis Marie-Antoinette, ça lui est revenu aux oreilles, donc elle l'aime pas du tout. Et en plus de ça, lui, il a eu un train de vie à Vienne, à base de pute, coke, Chippendales, moulure au plafond, enfin voilà. Et à Vienne, ça passait pas du tout.
C'était un excentrique.
Pourtant, ils sont très rococo là-bas.
Oui, mais Marie-Thérèse, elle est pas.
Ça dépend des époques, je pense.
Ouais.
Ouais. Marie-Thérèse, c'était une dame un petit peu coincée. Ah. Et donc, du coup, elle avait envoyé une lettre à sa fille, Marie-Antoinette, en disant votre cardinal de rang, mais méfiez-vous-en comme la peste, enfin, il a aucune valeur, aucune morale. Voilà. Donc du coup, il n'est pas du tout en grâce à la cour. Et comme toute personne de cette époque, comme tout noble de cette époque, il aimerait bien à nouveau être dans les faveurs du roi et de la reine. Pigeon idéal, n'est-ce pas ? Et on a notre cerveau, elle s'appelle Jeanne de Valois-Saint-Rémy, c'est la comtesse de la Motte. Alors elle n'est pas du tout comtesse, elle s'est autoproclamée comtesse, mais elle n'est pas vraiment comtesse. Elle est mariée avec Monsieur de la Motte, elle a une petite pension de Louis XVI parce qu'en fait c'est une descendante par le slip gauche d'un roi de France qui s'appelle Henri II.
Classe.
Voilà. Donc elle a Valois dans son nom de famille, mais c'est vraiment la descendante d'un bâtard d'Henri II, donc c'est des siècles avant.
Wow, on a vu
Henri
mieux.
Henri II, on est à la Renaissance, hein, Henri II, hein, voilà. Et donc, elle et son mari, ils ont la petite pension de Louis XVI, mais ils ont vraiment pas d'argent et elle aimerait bien avoir des facilités financières et faire entrer un petit peu d'argent dans ses caisses. Et elle entend parler de cette histoire de collier, etc. Et là, elle se dit, mais c'est super, j'ai un cardinal qui voudrait reprendre les faveurs du roi et de la reine, notamment de la reine. Et là, j'ai deux bijoutiers un peu couillons qui savent pas quoi faire de leur collier, donc j'ai une grande idée. Donc elle va voir le cardinal et elle lui dit, écoute, moi je suis assez pote avec la reine. Lui, comment il pourrait le savoir, il est jamais à la cour, tu vois. Et la reine, en fait, elle aimerait beaucoup acquérir ce collier. Mais tu comprends, ces temps-ci, avec la guerre d'indépendance américaine, les problèmes de thunes...
Ah, elle n'a plus trop de sous.
Ça la fout mal aux yeux du peuple.
Ah oui, c'est la crise, quoi.
Bah oui, là on est quand même seulement 4 ans avant les révolutions françaises. Mmh. Donc voilà, ça la fout un petit peu mal. Est-ce que...
Tu peux lui acheter...
Est-ce que, en fait, elle pourrait te filer de l'argent en scred? Et c'est officiellement, on met ton nom sur la facture et c'est toi qui récupères le collier. Et là, lui, il dit, je sais pas, faut voir, faut y réfléchir. Enfin, il y croit pas trop. Mmh. Et donc, elle, notre madame de la Motte, bon, elle est entourée de tout un tas, enfin, je vous passe les détails, mais il y a tout un tas de gens, tout son entourage proche, en fait, invalidé à monter l'arnaque. Hein, son mari est dedans, elle a un pote faussaire qui est dedans, enfin voilà. Donc, elle va demander à son pote faussaire de faire des fausses lettres de Marie-Antoinette.
Ah!
Et elle va faire croire qu'elle est passeuse, etc. Elle va les passer au cardinal, où la reine, du coup, lui dit, s'il vous plaît, avancez-moi les thunes, on fait chic. Ça en 4 échéances. Enfin,
m'avancez... 4 fois sans frais.
Enfin non, mais en fait, il n'y avait même pas besoin de lui avancer les thunes. C'est-à-dire, elle passait l'argent au cardinal, et le cardinal passait l'argent, tu vois.
T'as limite, la reine, elle avait une carte électronique.
Et lui, il y croit, mais il sait pas trop. Enfin, tu sais, c'est quand même dingue comme truc, la reine de France qui te demande d'acheter en scred un collier alors que t'es en froid avec elle. Enfin, donc, la comtesse de la Motte, elle se dit, ok, on fout le paquet et elle organise une rencontre. Stylé. De nuit à Versailles, dans le jardin de la reine tout.
De nuit, c'est louche, ça.
Oui, alors en fait, elle a trouvé une pute qui s'appelle Nicole Leguet, qui ressemble énormément à Marie-Antoinette. Tac, elle va la poudrer, la farder, elle fait faire super cheap une copie d'une robe de la reine, et elle organise une petite rencontre à la dérobée dans les bosquets.
Dans un brouillard, ça passe.
Exactement, il y a son mari qui va se déguiser en laquais à la livrée de la reine et qui va mettre un terme à la rencontre en disant « Oh là là, votre belle-sœur arrive !» et tout. Enfin, tu sais, faire croire qu'il y a des gens qui arrivaient et tout. Et là, du coup, le cardinal, il y croit plus, en fait, quoi. Il se dit « Ah bah oui, j'ai rencontré la reine. » Enfin, parce que du coup, cette comédienne lui a dit « Ah bah si vous faites ça... »
Cette comédienne, oh là, elle a gagné du galon, là, en 12 secondes.
Cette fille de petite vertu lui a dit « Oui, bah vous pourrez... »
revenir à la cour.
Voilà, enfin voilà, tous nos différences seront oubliées, etc. Donc lui, il y croit et il va finir par accepter. Donc il va voir les deux bijoutiers et en fait, il va leur donner une lettre de la reine, je dis bien la reine entre guillemets, qui passe commande, etc.
Elle nous les a fait, mais
il récupère le collier et il donne le collier à Madame de la Motte qui est censée le donner à la reine. Et Madame de la Motte se retrouve avec son super collier et mais directement, tac, elle commence à démonter le collier avec ses potes et ils enlèvent diamant par diamant et ils commencent à faire des allers-retours au Royaume-Uni, à Londres, pour aller vendre les diamants, etc.
Pas mal organisé.
Absolument. Sauf que arrive la première échéance de paiement et le cardinal, il commence à flipper un peu en disant, moi, on m'a toujours pas filé les thunes et il va falloir que je file les thunes quand même.
Mais attends, c'est-à-dire que les bijoutiers, ils ont filé le collier comme ça?
T'as un mot de la reine, t'as un mot de la couronne de France, voilà. En vrai, t'as un mot de la couronne de France, t'y vas.
Je pense,
tu vois.
Ok, pourquoi pas.
Et donc le cardinal, il commence à flipper, il en parlait avec Madame de la Motte. Alors Madame de la Motte, elle avait déjà vendu pour 400 000 livres de bijoux, de diamants.
Ça fait beaucoup de chevaux.
Rapidement, mais oui. Donc elle va lui filer juste 20 000 en disant la suite arrive et tout. Mais 20 000, c'est rien par rapport à la valeur entière du collier. Et voyant qu'ils vont avoir des difficultés à être payés, les deux bijoutiers décident d'entrer directement en contact avec la première dame de compagnie et de chambre de la reine, Madame Campan. Et là, Madame Campan dit, vous a jamais acheté ce collier, les gars. Enfin, c'est honteux de venir nous présenter une facture d'un bijou qu'on vous a quand même refusé 3 fois. Enfin, tu sais, ça fait un petit peu les gros lourdeaux quand même, tu vois.
T'es que tu sens qu'il y a un truc qui va pas.
Et là, ils vont lui montrer les lettres de la reine, etc. Et là, le truc est découvert. Et le 15 août 1785, le cardinal de Rohan, il s'apprêtait à célébrer la messe à Versailles, dans la chapelle du château de Versailles. Il est arrêté manu militari et il est emmené dans le bureau du roi Louis XVI. Et Louis XVI, il se retrouve vraiment avec un sac de nœuds énorme. Et il se dit, bon, on va essayer de démêler tout le bordel. Et on se rend très vite compte que le cardinal s'est fait rouler comme, comme un petit caca, vraiment. Et Marie-Antoinette a été dans une colère noire apparemment dans le bureau, enfin parce qu'elle s'est super vexée contre le mec en disant mais d'où vous avez pu croire que je vous donnerais rendez-vous de nuit, moi Marie-Antoinette, pour vous demander d'acheter un collier en secret dans mon nom, enfin alors qu'on m'a proposé 3 fois de me l'offrir, enfin.
Oui, ouais, il était pas prêt de revenir à la cour lui, je pense.
Non. Et lui, il va quand même dire au roi, Majesté, on est cousins, enfin parce qu'on est tous cousins à cette époque-là dans la noblesse, voilà. Enfin puis quand même, nos papas, ils ont fait la guerre ensemble. Hein. Et Louis XVI va lui dire, oui, mais j'ai mon devoir de roi et de mari et ça passe avant tout, donc.
Tu dégages.
À la Bastille. Et oui. Oh, vol. Au début, il est accusé de vol, le cardinal. Vol du bijou.
Okay.
Escroquerie et crime de lèse-majesté, parce que c'est quand même nuire à la réputation de Marie-Antoinette que de penser que la reine de France, elle donnait des rendez-vous comme ça en pleine nuit. Et qu'elle, voilà.
Pas une écrue le bonhomme. Hein.
Exactement. Et donc, Madame de la Motte se fait arrêter également. On finit par la choper. Mmh. Nicole Leguet aussi. Et le mari de Madame de la Motte et les autres faussaires, eux, ils ont réussi à se casser à temps.
Pas mal.
Donc, il va y avoir procès. Alors Madame de la Motte, elle est condamnée, je reviendrai vite fait là-dessus. Le cardinal, lui, en fait, Louis XVI n'est pas très malin, il va lui laisser le choix entre le juger, entre guillemets, lui-même à huis clos, et que ça fasse en famille, entre guillemets, ou un procès devant le Parlement de Paris. Et le cardinal va choisir le Parlement de Paris. Et c'était une très bonne idée, parce que le Parlement de Paris, par principe, depuis à peu près un siècle, exactement, il s'oppose au roi.
Et donc, pour un truc qui a touché à l'image des époux royaux, vous voulez pas le faire à huis clos.
C'est un mauvais plan. Quoi. Non, mais là, le problème, c'est que le cardinal est entièrement acquitté par le Parlement de Paris. Il est acquitté de son crime de lèse-majesté, donc on l'accusait d'avoir pu penser que la reine, elle avait quand même...
Donné un rendez-vous secret.
Ouais, voilà. Et donc, du coup, acquitté Rohan, c'est jugé Marie-Antoinette. Et ça va totalement nuire à l'image de Marie-Antoinette, cette histoire. C'est le début de ses surnoms, Madame Déficit, etc. Enfin,
alors que la pauvre, elle a rien fait.
Non, absolument,
Pas grand chose, Marie-Antoinette, au final.
Elle a été reine un petit peu comme tout le monde, sans vouloir la défendre. Oui. Voilà, elle a pillé beaucoup de thunes, assurément. Mais les dépenses, au final, de Marie-Antoinette.
C'est pas si exorbitant.
C'est une goutte d'eau à cette époque-là. Marie-Antoinette, elle a pas. Non, effectivement, c'est pas une nana qui a fait. Elle a jamais vraiment fait de mal, cette bonne
femme. Puis surtout dans l'histoire, elle a un saut de merde qui lui tombe dessus alors qu'elle a pas bougé le petit doigt, quoi. Quelqu'un usurpe ton identité et après, tu te fais avoir. J'ai rien foutu.
Mais clairement. Mais pourtant, ça va tellement nuire à sa réputation, donc celle qu'on appelle déjà l'autre chienne. C'est son surnom, voilà.
C'est dur, ça.
Oui, non, mais.
C'est un jeu de mots.
Elle a pris super cher, hein, au final, alors que la pauvre, mariée de force à 14 ans, violée le soir de sa nuit de noces, enfin voilà, une vie bien sympa. Et donc, lui, le cardinal est acquitté. Madame de la Motte, c'est quand même, de toute façon, la vraie méchante de cette affaire. Donc, elle est condamnée à la prison à perpétuité et à être marquée au fer rouge du V des voleurs sur chaque épaule. Donc, elle se débat un petit peu. Donc, du coup, il y a un des deux V, on lui fait pas sur l'épaule, on lui fait sur le sein parce qu'elle se débat un petit peu.
Oui, bien sûr. Voilà. Je pense qu'on a bien voulu la faire chier, surtout.
Une charmante époque où on est très sympa dans nos condamnations.
Le j'ai glissé. Alors, celui-là, j'y crois moyen.
Mais c'est ça. Oh non, le coup est parti tout seul. Et elle va réussir à s'évader. Incroyable, quel personnage rocambolesque.
Elle a de la ressource. Hein.
Elle s'évade et elle va au Royaume-Uni, donc elle retourne à Londres. Alors, la conclusion, qu'est-ce qui est arrivé à nos personnages? Alors Marie-Antoinette, comme je vous l'ai dit, ça nuit énormément à sa réputation. La Révolution française va éclater 4 ans plus tard. Et elle est condamnée et exécutée le 16 octobre 1793. L'affaire du collier est ressortie à son procès. Hein, c'est... c'est un tournant super décisif dans la réputation de Marie-Antoinette, l'affaire du collier de la reine. Oui. Clairement. Elle meurt, quoi. Notre cardinal, il est exilé quelque temps, malgré tout, parce que, enfin, même s'il est acquitté, Louis XVI et Marie-Antoinette l'ont un peu mauvaise, donc il est quand même un petit peu éloigné de la cour, et puis il peut finir par revenir. À la Révolution française, il va s'exiler parce que c'est un fervent monarchiste.
Oui, et puis en plus, est-ce que les
hommes d'église, de toute façon, sauf s'ils prêtaient allégeance à la République, mais
pas
sinon,
le moment de
non.
À Paris, quoi.
Voilà, exactement. Et il va mourir au chaud dans le pays de Bade, donc qui était je sais plus quel statut ça avait, c'était République, Principauté, enfin de mémoire, je me rappelle plus, mais c'était un État.
Un petit Monaco, quoi.
Qui, oui, c'est ça, Bade, qui se situe actuellement, c'est le sud-ouest de l'Allemagne, à peu près.
Ok.
Voilà. Et Madame de la Motte, donc Madame de la Motte, comme je vous l'ai dit, elle s'évade, elle part à Londres, et en 1791, elle est âgée de 35 ans, donc elle est toute jeune hein, quand il y a cette histoire, Madame de la Motte. Hein. Elle meurt à Londres, elle s'autodéfenestre pour fuir ses créanciers.
Ah oui.
Ah ouais.
Ouais, donc une gestion de l'argent pas la plus efficiente.
Bah, puis apparemment, enfin d'après les témoins, elle pensait qu'elle allait survivre à sa chute de 4 étages, mais non. Non, non, ça s'est pas passé comme ça. Et le collier, on n'a jamais, jamais retrouvé aucune trace du fameux collier de la reine. Mais si vous êtes curieux, comme je vous dis, vous tapez collier de la reine et vous aurez des tonnes et des tonnes et des tonnes de photos sur Internet pour vous faire une idée. Voilà.
Ok, mais cool. Trop bien, mais belle histoire. C'est un petit côté film de casse, film récent, tu vois. Donc il y aura un petit film récent à faire dessus avec, avec Jason Statham et Vin Diesel.
Et puis je trouve ça ouf en fait.
Ouais,
enfin, tu sais, d'avoir réussi à couillonner comme ça un couple royal.
C'est comme le mec qui a vendu.
Ça montre
c'est ce que
c'était
le pigeon. La Tour Eiffel.
Ouais, le mec qui a acheté la Tour Eiffel et qui s'est fait dégager par les gendarmes alors qu'il essayait de déboulonner les trucs. Ah ouais, là tu l'as mauvaise. Mais
c'est à moi. C'est génial. Je trouve ça archi drôle quand même.
J'avoue. Mais bien joué.
Mais oui, et tu faisais pas ça pendant tes visites à une époque Tu faisais pas cette histoire-là.
L'ai fait que pendant une visite et très peu de fois, mais t'étais là, effectivement.
Ouais,
c'était donc une choc.
Dans
Quartier
Chic.
Dans Quartier Chic, ouais. Exactement.
Mm-hmm. Je me souviens.
Eh ben merci beaucoup, c'est très chouette. Ok, ouais. Comme quoi le passé n'est pas passé de mode. Très
et
bien.
Non.
J'ai arrêté les jeux de mots moisis, mais bon.
Moi j'en ai plein, donc t'inquiète pas. Ouais.
Yes, je m'inquiétais pas tellement, mais allons-y pour les chouchous.
Ça ne te dit rien ?
Ah, c'est lui !
Les temps sont durs, Camille.
Autant vous dire qu'il est hors de question que les Allemands viennent à nouveau envahir notre territoire.
Tu crois-moi, Hubert, la France va vite reprendre le dessus.
Et oui, la France va vite reprendre le dessus. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, Camille Saint-Saëns, il est né à Paname le 9 octobre 1835 et il est mort à Alger le 16 décembre 1921. Ça fait 86 piges quand même.
Pas mal.
C'est pas mal.
Je savais pas qu'il était mort aussi récemment.
Oui, il y a un siècle quoi. Mais oui, c'est vrai, ça fait pas si longtemps que ça. Son premier concert vient en 1846, il avait que 11 ans.
Ah ouais ?
Ouais. Et c'était à la salle Pleyel. En jouant le concerto en do mineur de Beethoven et concerto en si K450 de Mozart. Rien
et
que ça.
Il jouait quel instrument ?
Du piano.
Du piano.
Il jouait de la chaussette. C'était magnifique. C'était beau. Mon Dieu.
Non. C'est-à-dire
qu'il y a des gens qui payaient pour voir un gamin de 11 ans jouer au piano ?
Bah écoute, on va écouter.
Okay.
K450 en ré majeur.
Donc, enregistrement d'époque.
Oui, donc, désolé, j'ai pas trouvé la version en si, mais gardez en tête qu'il a que 11 ans.
Je sais pas rien.
C'est pas mal pour un gamin de 11 ans qui joue ça. Non mais.
Bon, il est pas convaincu,
mais je suis.
C'est appuyé sur des touches. Hein.
Oui. Non mais on raconte qu'il avait l'oreille musicale dès l'âge de 2 ans, qu'il ait composé sa première œuvre à 3 ans et qu'il comprenait et parlait le latin à l'âge de 7 ans. Un petit génie quoi.
Le latin m'impressionne plus que le truc sur les notes.
Ah bon, tu trouves ?
Ouais, tu regardes des gamins de 11 ans aujourd'hui qui jouent à Fortnite et tout, ils ont beaucoup plus d'agilité dans les doigts. Hein.
Ouais, je sais pas, moi j'ai acheté un piano là en décembre dernier et j'arrive pas à faire ça.
Mais tu sais, c'est quoi ton problème ? Bah, c'est que t'as pas 11 ans. Voilà. Voilà.
Ça doit être ça. Bon, après, j'ai trouvé aucune preuve de tout ça parce que.
Yes, exactement ouais, voilà. Ce qu'on voulait.
Non, mais Askip, ses parents ne voulaient pas qu'il ait trop de pression aussi jeune. C'est pas totalement faux. Regarde, je sais pas, Miley Cyrus, elle a mal tourné. Ouais,
c'est vrai.
Lindsay Lohan aussi.
Aussi, mais elle a complètement disparu. Bref, c'était un très bon élève.
Michael Jackson. Vas-y, continue.
Ouais, très bien. C'était un très bon élève, surtout dans les matières scientifiques. Il s'intéressait vraiment à tout.
Et là, par contre, on a des preuves de ouf.
Ah oui.
Non, mais sur bulletin, quand il était chez 6ème 2.
Donc, il aimait tout.
La littérature, les plantes, la botanique, l'astronomie, mais la musique, c'était vraiment son dada. Il va faire le Conservatoire National de Musique en 1848, où il étudiera l'orgue avec François Benoît. Il prend des leçons d'accompagnement et de chant, et au conservatoire, on lui apprend de passer du piano à l'orgue, parce que c'est là où il y a du taf. Donc, à l'époque, c'était beaucoup plus difficile.
Ouais, d'être organiste.
Non, c'est surtout de trouver du taf.
Ah, oui,
parce
qu'aujourd'hui,
il suffit juste de traverser la route.
Oui, c'est vrai.
Et
pour passer du piano à l'orgue, il fallait qu'il traverse le parvis, en fait, pour aller à l'église jouer de l'orgue.
C'est ça. Non, mais voilà. Donc, il obtient le premier prix d'orgue au Grand Prix de Rome. Donc, on dirait la F1.
Ouais,
okay.
Le Grand Prix de Rome, c'est un prix pour les artistes, en fait, qui existe encore aujourd'hui, si je ne me trompe.
Oh. Ah, peut-être.
C'est la reconnaissance des artistes et c'est ce qui permet d'avoir un accès pendant un an à la Villa Médicis.
Oui,
en fait, un artiste en résidence,
okay,
c'est le prix de la Villa Médicis. Voilà.
D'accord, ok.
Trop bien.
Enfin, il me semble, ça se trouve, je dis une énorme connerie, si mais de mémoire,
trouve,
c'est ça.
Ça se trouve, on aura ça.
Je ne confirmerai pas.
Ouais, ça se trouve, avoir des haters comme ça qui vont dire, mais pas du tout, Camille, mais je crois que c'est ça.
Très bien. En tout cas, son œuvre Ode à Sainte-Cécile le fait gagner le premier prix d'un concours organisé par la Société Sainte-Cécile de Bordeaux, qu'on est en train d'écouter, en 1852. Et là, on sent bien un peu l'influence de ses cours avec François Benoît, le chant, tout ça. Tout ça.
Bien sûr. Ouais.
Non, mais c'était un organiste et il a pris des cours de chant. Et là, t'entends des chants.
Oui, oui. Oui, j'acquiesce.
Ok, très bien. Il s'en fout. Un an plus tard, il compose sa première symphonie en mi majeur et devient organiste à l'église Sainte-Marie de Paris.
Donc, il fait sa vocation dans l'orgue.
Ah bah,
quoi.
Il faut trouver
là,
du
c'est
taf.
Bon. C'est, okay.
Et à quel âge tu dis
Là, je ne sais plus. En 1852 à peu près, donc il avait une vingtaine d'années.
Ah, ok.
Un peu 18 ans, 20 ans, je ne sais plus. Bref, donc l'église Sainte-Marie de Paris, c'est entre Châtelet et l'Hôtel de Ville, si vous voulez tout savoir. Il est très bon. Il est très bon. Il y a une petite anecdote que je trouve très drôle et très hallucinante aussi. C'est qu'on raconte qu'un jour, il aurait composé un truc de 21 pages en une heure. Parce qu'il avait oublié qu'il en devait une à quelqu'un. C'était une histoire de contrat, un truc comme ça. Et
il a mis la même note tout le temps.
Mais je trouve ça dingue.
Mais c'est pas le seul à avoir ce type de légende, non ? Il y en a pas d'autres qui ont des trucs
genre. Mozart, on a des comme ça. Oui, je pense que Beethoven, je me suis jamais intéressé, mais il doit avoir des trucs comme ça.
Je me disais que j'avais déjà entendu l'histoire, mais je sais pas si c'était lui ou d'autres.
Je pense que c'est pas le seul, mais bon.
Mais bon,
après, c'est
il
pas
pèse
tous les
grave
enfants.
Dans le
voilà,
game.
C'est pas tout le monde.
Oui, puis même dans l'absolu, juste écrire un truc de 21 pages.
C'est ça.
Bon, bah, bien joué.
Quand j'étais surveillante, je te garantis qu'il y en avait pas beaucoup qui étaient capables de faire ça.
Là, il y avait plus de 20 ans, non ? Je crois.
Oui.
Après, peut-être qu'il avait beaucoup redoublé parce qu'il aimait que la musique.
Non, mais bon, moi, il me reste encore 23 pages pour mon sujet. Donc, Camille adorait la nouvelle musique. Il militait limite pour un changement des règles établies jusque-là. Par exemple, genre, il soutenait son sahab allemand Richard Wagner avec son opéra Tannhauser, créé en 1845. Il y a beaucoup de puristes qui étaient contre cet opéra parce qu'ils ne suivaient pas du tout les règles de l'opéra, au point de devoir arrêter dès la troisième représentation de Tannhauser. Tout ça parce qu'à l'époque, il devait y avoir un ballet dans tout opéra, mais surtout pas au premier acte.
Pour éviter la poussière, j'imagine.
Qu'il est con.
Je suis tellement fatigué.
Pardon, je...
Mais du coup, Wagner, qu'est-ce qu'il fait ? Il met un ballet juste après l'ouverture, donc en premier acte.
C'est Yolo. Quelle outrecuidance ?
T'as vu ça ? Bref, bad buzz sur Wagner. Certains disaient qu'en plus de bafouer les règles, sa musique n'était pas si originale que ça.
De quoi Wagner ?
Ouais.
C'est quand même pas...
Oui, enfin hein, bon.
C'est pas fin, Wagner.
Mais à l'époque, c'était un nouveau type, on connaissait pas, c'est...
Pour ceux qui écoutent et qui voient pas Wagner, c'est pin, 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 pin.
Ah, je vois chez Valkyrie. Ah oui, ça pète un petit peu quand même.
Il me semble.
Ouais.
Putain, je doute de tout ce que je dis, c'est horrible.
Ah non, mais alors c'est pas moi de
confiance en toi,
c'est pas moi qui vais te contredire.
C'est horrible, mais non, mais je me dis, mince, attends, peut-être. J'ai des énormités en tête. Enfin bref, vas-y, continue.
Bref, donc oui, bad buzz, mais le bad buzz, c'est tout de même du buzz. Il réussit. Bref, tout ça, c'était pour dire que Saint-Saëns, lui, il avait pressenti le talent de Wagner. Mais ce qui est fort avec Saint-Saëns, et c'est sûrement grâce à son éducation, j'en parlais tout à l'heure, Camille ne voulait pas qu'on parle de lui, dans le sens où il cherchait pas à être reconnu par sa personnalité, mais plutôt par ses œuvres. Et du coup, il se concentre quasiment que sur la création musicale. Là, c'était au début de sa vie.
Si c'est bon, c'est bien Wagner. Excusez-moi, je suis
très bien. Confirmation. Merci, Maître Capello.
Pardon.
Qu'est-ce que je disais ?
Il voulait être reconnu pour ses œuvres.
Oui, c'est ça. C'est arrivé jusqu'au stade où il passait pour un mec coincé du cul, quoi. Okay. Parce qu'il voulait pas, enfin.
Il voulait pas faire la fête. Travail.
C'est un peu ça. Bref.
Tiens, Camille, tu viens boire un verre? Non, je travaille.
Donc, même si Camille a défendu Wagner, il était pour la musique, pour que la musique classique garde son style, parce qu'il y avait de plus en plus de germanisation de la musique classique à l'époque.
Mais puis surtout, c'est pas du tout. Enfin, au final, ils vont pas du tout faire le même type de musique.
Ah non, pas du tout.
Il y en a un, c'est la chasse aux sangliers, et l'autre, c'est le festival de Cannes, quoi.
Ouais, justement, donc ça prouve que lui, il militait vraiment pour Cocorico, quoi.
Oui.
Donc, genre Beethoven ou Wagner, justement, et lui, il voulait absolument garder, genre la nation, enfin, comment dire,
l'identité
française dans la musique classique. Et puis ça, c'était une idée qui a été défendue par la suite par Debussy, c'est mon chouchou, by the way.
Ok.
Je l'adore. Et Ravel, donc. En très, très, très gros, on peut regrouper la musique classique en trois styles en fonction du pays. Donc, t'as l'italien, avec Vivaldi ou Puccini. C'est un style extraverti, avec de longues notes et une sorte de simplicité dans les notes. Le style allemand, avec Beethoven ou Mozart.
Et le style français.
De quoi ?
Et le style français.
Ouais, mais je laisse moi finir avec l'allemand. C'est un style structuré, logique et continu. Ouais. Mozart, il est en Autriche, mais à l'époque, c'était l'Allemagne, donc je le mets dans... Enfin, bref.
Puis je nuance juste ce que tu dis en disant que là, tu parles aussi de musiciens qui appartiennent pas à la même époque.
Ah, mais bien sûr, voilà. Oui. Mais c'est vraiment, j'ai dit en très, très gros, c'est... Oui. Voilà. Et puis, la musique française, elle est élégante, elle est raffinée, elle est grandiose, entre guillemets. Et Saint-Saëns voulait vraiment garder cette élégance française. Qu'en 1857, alors qu'il n'avait que 22 ans, sa symphonie Urbs Roma, qui veut dire la ville de Rome, je crois, Urbs, obtient un autre premier prix au concours de la Société Sainte-Cécile. Et la même année, le Mercato fait ses affaires et se retrouve organiste dans l'équivalent du Real Madrid des églises, l'église de la Madeleine à Paris.
Ah oui, stylé. Ouais.
Yes.
C'est pas mal du tout. Et un jour, pendant qu'il jammait tranquillement, en mode full impro et tout, dans son église, il y avait Liszt qui l'écoutait. Et il avait grave kiffé. Et Liszt, vous connaissez sûrement, c'est ça. Ça vous dit rien ?
Si, si.
Ah, je dois avouer que ça dit plus
que ça. En fait, moi, j'ai découvert cette chanson et je crois que c'est l'une des toutes premières musiques classiques que j'ai écoutées de toute ma vie parce que c'était dans un truc de Tom and Jerry.
C'est vrai ?
Et la vidéo, elle est juste incroyable. Elle est vraiment super cool.
Ok, mais ça, j'avoue, ça me dit rien. Autant Liszt, le nom, je connaissais, mais la musique me dit rien.
Mais bref, donc Liszt l'a repéré, du coup, il le fait quitter la tribune de Sainte-Marie. Et de 1861 à 1865, il devient prof de piano à l'école Niedermeyer, c'est dans le 9e, apparemment.
Okay.
Mais ça n'empêche pas les échecs, donc il rate à deux fois le Grand Prix de Rome. Mais tout de même, il devient très pote avec de très grands musiciens, comme Berlioz, qui a fait la Symphonie Fantastique, Bizet ou Rossini. Ouais, c'est des grands noms.
Bizet, c'est Carmen, je crois. Et Rossini, je sais plus.
En 1870, il y a une guerre, la guerre franco-allemande. Il fait partie du 4e bataillon de la garde nationale. Il a un pote à lui qui meurt pendant la bataille de Buzenval en 1871, et pour lui rendre hommage, il lui compose la marche héroïque, opus 34, qu'il avait écrit pendant la guerre. Mais bon, on n'allait pas imaginer, lui en plein milieu des tranchées avec un stylo à la main droite. Et puis... Non, même pas, il connaissait Napoléon III. Tout simplement. Du coup, il l'a retiré de là-bas.
Ah oui. Oui, parce que je me disais quand même, c'est quand même bien la dèche de devoir envoyer les pianistes à la guerre, parce que bon, il ne peut pas se passer...
Et puis surtout, pour le résultat final, on s'est pris une énorme branlée. Hein. C'est le cas. Ah non, mais vraiment.
On a chacun ses points d'accroche.
Ah, c'est pitoyable. Ah, vraiment.
Bref, du coup, en 1871, qu'est-ce qui se passe, Camille ?
On s'est pris une énorme branlée.
Par ?
Par les Prussiens.
Mais non, pas du tout. C'est la Commune de Paris.
Oui, il y a la Commune de Paris, mais c'est suite au fait qu'on s'est pris une énorme branlée par les Prussiens.
Probablement. En tout cas, les communards ont tué l'abbé Gaspard Desguéris, ces salauds de fachos de communistes. Camille, il a senti la Hesse arriver, il s'est barré à Londres. Et c'est une très bonne décision. Parce qu'il
se barre à Londres,
putain. Bah ouais. Il a bien fait parce que...
Il s'est défenestré ou pas ?
Tout à l'heure. il arrive à jouer devant la reine, qui était déjà la reine Elisabeth II. C'était la reine Victoria. Elle n'est pas aussi vieille que Michel Drucker non plus. bref, donc il y passe une année. Les Anglais le kiffent et tout. Et il disait même que c'était le plus grand compositeur français de tous les temps. C'est pas la
même
chose.
C'est vraiment le plus grand compositeur français grand. De tous les temps.
Tous les temps. Yes. Et à son retour en France, donc après la guerre contre les Allemands, il y a une sorte de vague anti-allemande, naturellement. Et c'était dans tous les domaines. Et comme lui, il militait pour ne pas être influencé par eux, bah ça tombe à pic. Du coup, il crée la Société Nationale de Musique pour encourager la musique française.
En fait, je réalise que ce mec, c'était un petit peu un F de souche avant l'heure, quoi.
Oui,
on dirait un nom de boys band, c'est quoi?
Non, pas trop.
Bah, après l'épisode, je t'encourage à chercher F de souche, tu verras.
Oui, oui.
En navigation privée?
Ah bah ouais, c'est, toi, c'est des gens que tu aimeras bien.
Mais puis, il vaut mieux qu'ils aient pas ton adresse IP.
Clairement.
Ok. Bon. Bref, du coup, il s'essaye à l'opéra, mais gros flop avec son œuvre lyrique La Princesse Jeune, sortie en 1872. S'ensuit plusieurs voyages, dont celui en Algérie en 1873. Et je ne sais pas du tout s'il y a un rapport, parce que j'ai pas trouvé grand-chose sur son périple en Algérie, mais je trouve que qu'il y a un, que j'ai perdu ma,
tu penses
ma
que
phrase.
Tu es culturel, il est plus inspiré.
L'opéra qui a suivi, qui s'appelle Samson et Dalila, qui est sorti à Dresde en 1877 à l'aide de son pote Liszt, qui lui était originaire de là-bas. Eh bien, on peut entendre des petites connotations arabes.
Mais parce que c'est une histoire biblique.
C'est ce que j'allais
donc
dire.
Donc je pense que c'est... Ouais. Ah pardon, désolé, ouais. Je t'ai coupé le
non,
sable sous
c'était...
le pied
oui,
du dromadaire.
Oui, juste, voilà.
Ok, cet épisode plein de surprises.
Mais c'est exactement ça, Camille, c'est bien, tu n'es pas tombé dans mon
piège. On dirait la BO de SS-117, mais un peu. Non.
Moi, je trouve que ça ressemble à une musique d'Astérix Obélix Mission Cléopâtre.
C'est vrai, oui. C'est exactement ça, ouais.
Ou un Fernandel, mais bon, c'est, là, on part très très loin.
Oui, clairement. Ah, genre Alibaba et les 40 voleurs. Oh là là, mais oui, tellement. Que je me refais,
donc, à partir de ce moment-là, sa vie ne m'intéresse pas tant que ça. Enfin, je vous la fais vite. Il se marie avec Marie Truffaut en 1875. Ils ont deux enfants.
Ah,
mais ils meurent tous les deux à six semaines d'intervalle. Le premier est tombé malade et le deuxième, il a fait une Mike Brandt aussi, Camille. Il a sauté du quatrième étage.
Non ouais.
C'est fou.
À Londres aussi ou il est revenu à Paris?
Non, il est revenu à Paris. Donc, il se sépare de Marie Truffaut, mais ils ne divorcent pas. Ils sont restés mariés toute leur vie. Okay. D'ailleurs, genre pour l'abandonner, enfin pour la quitter.
Il est par téléphone.
Non, il est parti en vacances, il est jamais revenu.
Ah,
tout simplement.
Le fameux, je vais acheter des clopes. tiens, on la connaît un petit peu celle-là.
Bref, donc il devient vraiment anti-musique étrangère au point de quitter la Société Nationale de Musique qu'il avait lui-même créée, rappelez-vous.
Bref de souche.
Tout ça parce qu'on avait, on voulait y jouer des compositeurs étrangers. Il perd sa mère en 1888. Il devient dépressif à cause de ça. Il se casse en Algérie pour s'en remettre, compose quelques œuvres et opéras à droite à gauche, voyage autour du monde pour des tournées, il va en Uruguay, en Asie, en Autriche, où il compose le Carnaval des animaux, qui sera un de mes prochains sujets, aux îles Canaries, en Scandinavie, en Russie, bref, bravo l'emprise.
Ah oui, il cumulait les points max, quoi.
C'est ça.
Et puis, attends, il aimait pas les musiques étrangères, et il est allé en Algérie.
Bah, et alors ?
L'Algérie, c'est la France, monsieur.
Bah, ok, ça se tient. C'était, calmons-nous.
Je te rappelle qu'on est au 19e siècle. Hein.
Oui, c'est pour ça, oui, c'était.
C'est aussi le premier compositeur qui pèse dans le game, qui a écrit une musique pour le cinéma en 1908, pour un film muet qui s'appelait L'assassinat du duc de Guise.
Ok. Bon. Ah oui, c'est peut-être, il a eu le nez creux aussi, oui. En 1908, c'est ça
1908, ouais. Et. Bref, je passe plein d'anecdotes.
Oui, bah tu fais comme, enfin, c'est toi qui as tes notes, donc non.
Oui,
c'est pas...
non, mais j'ai des trucs qui sont pas si intéressants que ça. Bref, donc c'est pas que sa vie elle est pas très intéressante, mais on peut encore, c'est surtout qu'on peut en parler pendant 20 minutes encore.
Non, parce que c'est long une vie, surtout quand tu meurs vieux.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il y a quoi ? Enfin, je veux dire, il aurait eu l'amabilité de mourir à 23 ans.
Ah.
C'est, tu vois, l'attaque, tu fais des sujets courts, mais.
Mais du coup, pourquoi je vous ai décidé de parler de Camille Saint-Saëns ?
Mais parce que tu aimes bien la musique.
Mais oui,
parce que j'adore la musique, mais surtout parce que ce qui le caractérise.
C'est sa musique.
C'est ça. c'est ce que je kiffe depuis la première fois que j'ai vu un opéra.
C'est sa xénophobie exacerbée. Ah, ça vraiment.
C'est les poèmes symphoniques. Donc, comme pour les quatre saisons, c'est des poèmes accompagnés de musique. Ce style-là s'appelle la musique à programme. Et je vais me concentrer sur les grandes œuvres qu'il a fait plutôt que sa vie, parce que c'est pas fou, il chante. Et quoi qu'il arrive, donc cette chronique-là, c'est juste pour introduire Camille Saint-Saëns, parce que comme je l'ai dit, mes deux prochains sujets, je vais reprendre des œuvres de lui que je vais expliquer. Un peu comme j'ai fait pour les 4 saisons et pour Gustav Holst avec les planètes. Donc, Camille Saint-Saëns, c'est le premier compositeur français à avoir écrit des poèmes symphoniques. Et c'est vraiment à la fin du 19e siècle que tout ça se développe en France, grâce à la Société Nationale de Musique. Et c'est justement ça qui va faire évoluer la musique classique à l'époque. C'est un peu comme genre, l'invention de l'écriture, c'était une nouvelle ère qui commençait.
Okay.
Avec Camille Saint-Saëns, il y a une nouvelle ère dans la musique classique qui vient de commencer.
Et c'est, je pense que c'est un peu aussi la dernière grande période de la musique classique, comme étant de la musique entre guillemets écoutée par tout le monde.
Bah, écoute, j'ai écouté ce matin un truc sur France Inter en allant au taf, et ils ont parlé de quelqu'un d'autre. Mais je sais pas c'est qui.
Mais enfin tu sais c'est les dernières périodes après tout de suite après la Première Guerre mondiale, t'as les années après, où t'as le swing qui apparaît,
ouais,
t'as le Charlie
Step, tout ça.
Exactement, voilà.
Et puis en plus potentiellement le fait qu'il y ait une guerre aussi violente etc, ça crée un besoin de.
Ah, ça fait des trous dans les orchestres.
Ah, vous n'allez pas dire ça, mais ça se tient beaucoup, hein. Bah ouais, à force d'envoyer les violonistes et les pianistes à la guerre.
Allez, on enchaîne. En 1900, il compose une cantate, donc c'est un poème symphonique destiné à être chanté, appelé Le Feu Céleste. Je vais vous épargner ça, je ne vais pas chanter. En tout cas, Le Feu Céleste, ça a été composé pour, je cite, « célébrer l'électricité et pour l'ouverture de l'exposition universelle à Paris ».
Génial.
Ouais. Dans le texte, on pouvait lire « Les spectres de Rome et d'Athènes, voilés de leurs ailes lointaines, la route à la postérité. » Et l'avenir demeurait sombre, cheminé sans sortir de l'ombre de l'héroïque antiquité. Soudain, comme un souffle s'élève. Des bords pourprés de l'horizon, ou comme lui l'éclair d'une glaive, sorti du fourreau sa prison, plus farouche qu'une épopée et plus lumineux qu'une épée, l'esprit moderne a resplendi, du bout de son aile sonore, secouant des clartés d'aurore, au front du vieux monde engourdi. À servir l'homme condamné, par lui la foudre est enchaînée et s'appelle électricité.
C'est stylé! J'aime pas bien ça, sans inspirer, c'est cool.
Ouais, est...
Alors c'est joli, mais la fin électricité, ça fait vraiment brand content, quoi. On a fait une pub qui s'appelle Lorio Kezak. Merde, le début était joli, là ça part.
Bon, en tout cas, c'est ce qu'on appelle la musique à programme. En 1873, il écrit Phaéton. Je ne sais pas si vous connaissez Phaéton. Son histoire. Ouais.
Si, mais c'est
Ah oui, monsieur
Il y a déjà un opéra de, je ne sais plus qui, Lully ou Rameau. Enfin, il y a déjà eu des opéras.
Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a Victor Hugo qui a écrit. Ah non, c'était Le Feu Céleste. Non, je sais
mais,
pas.
Mais Phaéton, oui. Enfin, c'est oui. C'est...
Mais est-ce que tu connais l'histoire de Phaéton? C'est le fils du dieu soleil Hélios.
Du tout. Je sais juste que ça tire de mythologie. Mais c'est tout.
Donc en gros, je vais vous la faire rapidement. Phaéton voulait une preuve qu'il était le fils du dieu soleil parce que personne ne voulait le croire. Hélios lui dit « Mais bien sûr, mon fils, dis-moi ce que tu veux et voilà, je le donne. »
Tu vas faire des flammes avec ton pouce.
Le petit Fafa, il lui demande donc de lui prêter son char. Mais le truc, c'est que c'est pas n'importe quel char. C'est le char du soleil quand même, wesh. C'est ce qui détermine quand il fait jour et quand il va faire tout noir.
Ah.
Personne qui va me dire ta gueule.
Non, parce qu'on est un podcast, on est poli, voilà.
Trop bien. Vous êtes mignon. Hélios essaie donc de le convaincre que c'est trop dangereux, mais Phaéton, il s'en balaie, qu'il veut conduire le soleil. Donc, papa gâteux qu'il est, il lui file les clés de son char. Phaéton monte dessus, mais un mortel qui essaie de conduire un char de dieu, bah forcément, ça va mal se passer.
J'imagine les gens, ils ont vu le soleil bouger dans tous les sens.
Du coup, il prend le char, il perd le contrôle, le char se dirige vers la Terre, il brûle tout sur son passage, parce que je vous rappelle que c'est le soleil. Jupiter, c'est l'équivalent de Zeus pour les Grecs, et il a entendu dire que la Terre était dans la merde, que si personne ne faisait rien,
Oh les gars, quelqu'un fait un truc là, non bon.
Et du coup, il monte au sommet de l'Olympe, et pour sauver le monde, il fait quoi? Bam! Un coup de foudre sur Phaéton, headshot. Il prend le contrôle du char et envoie tout ça dans le ciel. Il nous sauve tous. Donc, merci Zeus.
Yes, c'est ultra logique.
Ouais.
Je n'aurais pas fait mieux.
La légende raconte que c'est comme ça qu'est né le Sahara. Parce qu'il a tout brûlé.
Ah! Voilà.
Et parce qu'il vient, et je crois qu'il était né à côté du Nil. Et du coup, voilà.
Pourquoi pas après tout, hein.
Oui, why not? Bref, donc, Camille Saint-Saëns a fait une œuvre sur cette histoire-là. Il avait fait aussi, il y avait un texte qui allait avec. Phaéton a obtenu de conduire dans le ciel le char du soleil, son père. Là, on peut imaginer les petits galops.
Les petits poneys enflammés.
C'est grandiose, c'est beau. Et c'est avec un tempo assez rapide. Et quasiment dès le début, on peut imaginer les chevaux. Voilà. mais ses mains inhabiles égarent les coursiers. le char flamboyant jeté hors de sa route s'approche des régions terrestres. Tout l'univers va périr embrasé. Ça, c'est drama. Ça fait un peu peur, on doute, il y a les cuivres qui ajoutent un côté dramatique, tout ça, tout ça. Ah donc je répète un peu le texte, mais ses mains inhabiles égarent les coursiers, le char flamboyant jeté hors de sa route s'approche des régions terrestres, tout l'univers va périr embrasé, lorsque Jupiter frappe de sa foudre l'imprudent Phaéton.
100 balles.
Coup de foudre. Et là, il sauve le monde.
En vrai, il aurait fait des super musiques de films.
Ah, mais c'est sûr.
Enfin, tu sais, je veux dire, genre, la musique, elle est déjà incroyable. Mais ouais, Seigneur des Anneaux, fait par, tu vois, la musique du Seigneur des Anneaux par Camille Saint-Saëns.
Ah, mais il arrive vraiment...
Ça aurait pu aussi être incroyable.
Bah, on va peut-être essayer de le contacter.
Oui, Camille.
Mais voilà, et puis après, on sent que voilà, le monde est serein.
Bah disons que ouais, le monde a eu chaud au cul. Hein,
voilà, tu vois, là ça remonte, tout va bien. Hein, chaud au cul. Bien yes.
Ah, il est pâquerette repousse et tout. Là.
Pâquerette au Sahara, tout à fait.
Mais ailleurs.
Oui.
Il a sauvé le monde.
C'est vrai, c'est vrai. Mais donc voilà, ça c'était un peu en gros ce qui vous attend pour les deux prochains épisodes. Et puis merci Camille Saint-Saëns.
Mais oui. Mais merci à toi, j'ai trop hâte.
Eh ben cool, ouais,
ultra
moi aussi j'ai hâte.
Trop hâte parce qu'il y a des super œuvres de Camille Saint-Saëns, ouais. Et il y en a une des deux, j'ai vraiment trop hâte que je le fasse.
Et j'avais commencé un peu à la prendre au piano, même si c'est ça.
Tu nous feras une démo.
Non.
T'as vu avec Camille, nous on fait les bruitages à la bouche. Tu veux faire
Vous, je ferai la musique à la bouche.
Ouais.
Allez. Non mais merci beaucoup.
C'est très cool. C'était léger, c'était cuivré, ouais. C'était magnifique.
Et c'est un super compositeur, c'est vrai. Hein,
tout à fait.
Qui gagnerait vraiment à être connu.
Il me fait juste un petit peu peur au niveau de ses positionnements politiques, on va dire. Mais ouais, en tout cas musicalement.
T'es un peu nationaliste.
Mais... Ouais, bien apparemment. Mais non, effectivement, non, musicalement, ça gère.
Je confirme.
Eh bien, c'est un magnifique sujet, magnifique épisode.
Oui.
Voilà, on va s'arrêter là.
Pour... historique.
Et ouais, on va et en plus, vous verrez que pour le prochain, on va peut-être avoir aussi des petits liens, principalement avec les chevaux.
On va devoir attendre 2 semaines pour entendre ça.
Oh non,
oh là là.
Alors là, on fait style, mais en fait, oui, vous allez devoir attendre 2 semaines, hein, c'est pas une blague. Oui, dans tous les cas, nous, on se retrouve dans 2 semaines. C'était un énorme plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin les uns les unes des autres. Mettez-nous 5 étoiles sur toutes les applications. Envoyez-nous des bisous, envoyez-nous des gâteaux, des bières.
Des bisous.
Plein de trucs.
Allez, dis-tu encore la ciao.
Veux que je lui dise d'aller se faire enculer.
Vulgaire. Je trouve ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.